Bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons de la manière de surmonter l'égoïsme, en comprenant la véritable signification de l'amour. Le principe d'aujourd'hui est celui-ci. Comme Dieu le définit, l'amour est le seul véritable moyen de surmonter l'égoïsme. Quand on pense au mariage, on pense à l'amour. Mais pour nombre d'entre nous, l'amour a surtout une connotation sentimentale. Se sentir bien avec une autre personne, se sentir enjoué, sentir des papillons dans son estomac ou se sentir utile parce que quelqu'un vous aime en retour. Si nous sommes honnêtes, nous voulons tous être heureux et avoir une relation amoureuse, durable, avec quelqu'un du sexe opposé. Alors comment se fait-il que tant de chrétiens souffrent de problèmes relationnels? Combien de fois n'ai-je pas déjà entendu quelqu'un dire à haute voix « Je voudrais une relation parce que je tiens à avoir confiance en moi » ou « Parce que je voudrais que quelqu'un me soutienne » ou « Parce qu'au fond, je mérite vraiment d'être aimé » ou « Parce que je veux des relations sexuelles » ou « Parce que quand quelqu'un a besoin de moi, je me sens vraiment bien, bien sûr. » Vous n'entendrez pas beaucoup de gens dire tout ça de manière aussi explicite. Mais beaucoup de gens qui nous parlent à mon mari et à moi n'ont clairement pas de motif biblique pour nourrir une relation. Alors pourquoi est-il si important de surmonter l'égoïsme dans votre vie? La raison est simple. Si vous n'aimez pas vraiment, vous ne porterez pas de fruits et ne vivrez pas le cœur d'un mariage biblique. Dans l'enseignement biblique de l'amour et du bonheur, ce n'est pas de vous dont il s'agit, mais bien de Dieu et des autres autour de vous. Il n'est pas possible de vivre un mariage qui plaît à Dieu tout en mettant de côté la conception biblique de l'amour. Ces deux choses sont indissociables l'une de l'autre. Alors, qu'est-ce que l'amour biblique? Penchons-nous sur ces versets bien connus de la Bible que l'on trouve dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4. Voici ce que je lis dans la version Semeur. L'amour est patient. Il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. Il n'est pas prétentieux, arrogant et gonflé d'orgueil, il n'est pas impoli, grossier, il n'est pas déshonorant. L'amour de Dieu en nous, n'insiste pas sur ses propres droits car il n'est pas égoïste. Il n'est pas susceptible ou irritable ou plein de ressentiment. Il ne tient pas compte du mal qui lui est fait. Il n'y prête pas attention. Il ne se réjouit pas de l'injustice et de l'iniquité, mais il se réjouit lorsque le droit et la vérité prévalent. L'amour accueille les choses telles qu'elles viennent. Il est toujours prêt à croire en la meilleure part de chacun. Ses espoirs ne tarissent en aucune circonstance. Il endure tout, sans faiblir. Le genre d'amour dont il est question dans ces versets n'est pas un amour que nous manifestons spontanément. Cet amour-là est répandu dans nos cœurs, par le Saint-Esprit, dès après notre nouvelle naissance. Si vous lisez attentivement ces versets, vous verrez que Paul a écrit tant à propos de ce qu'est l'amour qu'à propos de ce que l'amour n'est pas. Remarquez qu'à chaque fois qu'il est écrit « l'amour n'est pas », il est question de ce qui anime notre chair, totalement égocentrée et si souvent opposée au véritable amour. Ce n'est pas naturel d'être patient et aimable, surtout lorsque quelqu'un vous a profondément blessé. Nous ne sommes pas encore dans le ciel et nous ne sommes pas encore parfaits, mais Dieu nous appelle à vivre selon ses valeurs, afin que nous soyons la lumière de ce monde et que son nom soit glorifié. Les versets que j'ai cités mentionnent les œuvres négatives de la chair. Mais pourquoi est-ce que ça nous arrive? Même les chrétiens qui aiment vraiment Jésus et veulent le servir ont souvent du mal avec cela. Vous devez comprendre qu'en dehors de notre nature pécheresse qui est égocentrique en raison de la chute, de nombreuses œuvres d'égocentrisme peuvent persister en raison de la douleur des blessures du passé qui n'ont pas été posées devant la croix. Avant mon mariage, Dieu m'a délivré d'un esprit d'autonomie, dont la cause était un traumatisme majeur dans ma vie. Mais je devais me débarrasser de ça. Ça a longtemps été le blocage de ma croissance en Christ. Et si je jette mon regard en arrière, je suis sûre que ça aurait aussi été un problème majeur dans mon mariage. Afin de comprendre et de briser le cercle de l'égocentrisme, il est nécessaire de laisser Dieu vous guérir, si vous avez besoin de guérison, afin d'entrer dans le plan de vie de Dieu pour vous, dans l'obéissance à sa parole. Permettez à Dieu de remplir votre cœur et votre esprit de son amour. L'amour de Dieu est source de guérison et ouvre la voie à la croissance, la fécondité et les bénédictions. Et c'est particulièrement important dans le mariage, où vous serez confronté à une autre personne qui est dans votre vie jour et nuit. Assurez-vous de pouvoir surmonter vos traits de caractère ou vos habitudes égocentriques avant d'entrer dans le mariage. Cela ne signifie pas que vous devez être parfait, mais s'il y a des choses que le Saint-Esprit vous révèle, vous devriez les prendre très au sérieux. Pour mettre désormais en pratique ce que nous avons appris, penchons-nous sur certaines caractéristiques qui pourraient vous aider à identifier les mouvements de l'ego et vous donner l'occasion de les contrecarrer par la puissance de l'Esprit-Saint. La première est la confiance en soi. Aussi naturel que c'était de compter sur notre propre sagesse avant de connaître le Seigneur, aussi naturel ça devient d'apprendre à cesser de compter sur cette sagesse-là. Nous devons fixer notre esprit sur la confiance en Dieu seul et apprendre à ne plus se pencher sur notre propre compréhension et sur notre propre sagesse. Le deuxième point est l'auto-assistance. Le dictionnaire décrit l'auto-assistance comme ceci. L'acte ou l'état de fournir des moyens de s'aider soi-même sans compter sur l'aide d'autrui. Demandez-vous, suis-je vraiment assez fort pour cette situation? Qu'est-ce qui me conduit à ne compter que sur moi-même? Est-ce la peur, la honte ou la fierté? Vous pouvez contrer l'auto-assistance en invitant Dieu à vous aider dans les situations difficiles. Vous découvrirez que ce que la Bible dit dans le psaume 54 au verset 4 est vrai. Voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est mon seul appui. Le troisième point est l'auto-satisfaction. L'autosatisfaction est une caractéristique naturelle chez une personne qui n'est pas née de nouveau. Le monde tourne autour de vous. Tant que vous vous sentez bien sujet, c'est bien. L'autosatisfaction est là pour satisfaire vos propres désirs. La Bible nous dit dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21, « Or les œuvres de la chair sont manifestes. Impudicité, impureté, sensualité, idolâtrie, sorcellerie, haine, discorde, jalousie, accès de colère, rivalité, dissension, division, envie, ivrognerie, orgie et j'en passe. Je vous préviens, dit l'auteur, comme je vous avais prévenu avant, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. La Bible nous enseigne qu'il nous revient de bannir fermement ce genre de comportement égocentrique. Le quatrième point est l'autosuffisance. L'autonomie vous rend confiant en vous-même pour tous vos besoins émotionnels. Il est possible, comme ça l'était pour moi, que vous commenciez à développer l'autonomie dans votre vie parce que vous avez connu des gens à qui vous ne pouviez pas faire confiance. Car leur faire confiance représentait à vos yeux un vrai danger. Pour certaines personnes blessées, il s'agit d'une stratégie de survie qui élève un mur autour de vous. Quelle que soit la cause, si vous comptez sur quelqu'un d'autre ou sur vous-même plutôt que sur Dieu, tôt ou tard, vous allez tomber. Pour contrer l'autonomie, vous devez apprendre à avoir confiance en la puissance de Dieu, car lui seul est en mesure de vous aider à tout moment. N'attendez pas des autres qu'ils subviennent à vos besoins émotionnels. Plus vous attendez des gens, plus vous êtes susceptible d'être déçu et blessé. Attendre vous met en mode veille. Sans rien donner, alors que la seule chose qui viendra combler vos besoins émotionnels, c'est d'aimer les autres en faisant confiance à Dieu. Le dernier point qui vous aidera à identifier les œuvres de l'ego, c'est l'auto-glorification. L'auto-glorification est une forme de fierté, en fait. C'est une expression de votre propre capacité et de votre supériorité qui est à l'opposé de l'humilité biblique. Avez-vous donné du crédit à quelque chose et senti du coup que ça boostait vraiment votre ego? Couvrez-vous d'un vêtement d'humilité et ne vous glorifiez pas. Laissez Dieu vous élever. Dans Jacques, au chapitre 4, verset 10, nous lisons « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Rappelez-vous que Jésus nous a enseigné que celui qui est beaucoup pardonné, celui-là aime aussi beaucoup. Vivez en paix avec Dieu et laissez Jésus être le Seigneur de toute votre vie. Lorsque vous aurez vraiment réalisé à quel point Dieu a gracieusement pardonné vos péchés, vous verrez que ce n'est pas difficile du tout d'aimer pleinement et de renoncer aux œuvres de la chair.